ici Homer Simpson qui dit bonjour à toutes les filles qui sont à l'écoute de notre station.
J'ai jamais changé le monde avant, alors je sais pas exactement combien de temps ça prend, mais si on est assez...
Oh, no problemo!
Camarades, j'ai discuté nuit et jour avec Burns et j'en ai ras-le-bol.
La grève, la grève, la grève,
c'est que pour la grève.
Et en quoi l'éducation peut me rendre plus intelligent? Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, j'oublie quelque chose que je savais.
De réglementation du nucléaire. Nous venons vérifier les compétences de vos employés.
Il va y avoir une erreur. Nous fabriquons des biscuits ici.
Vous avez un Homer Simpson dans vos effectifs.
Désolé, il est en voyage.
Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Nous sommes ensemble pour un Canu Info pour ce jeudi 6 octobre, et nous sommes en retard, et oui, nous sommes en retard, nous nous excusons bien platement, mais il faut dire que ce soir, c'est un chouette petit Canu Info pour moi, puisque j'ai l'honneur, la chance, l'immense plaisir d'accueillir, pour m'accompagner ce soir, mes amis et camarades, Fabien et Jean-Yves, dont vous reconnaîtrez les voix quand ils auront repris leur respiration, parce qu'ils ont dû courir pour venir jusqu'à nous. Pourquoi je dis que vous reconnaîtrez leur voix, déjà parce qu'ils sont déjà venus individuellement dans ce Canu Info m'accompagner, et puis parce que vous pouvez les retrouver dans l'émission qui va bien le dimanche dans la causerie. Alors ce soir on va vous parler de plein de choses, mais vous allez le découvrir au fur et à mesure, et j'avais envie de commencer avec le Zetouna Oliva. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce voilier. On l'appelle souvent le bateau des femmes, parce qu'il ne transporte que des femmes. Ce sont 13 femmes de tous les âges, de plein de nationalités différentes, de plein de professions différentes, qui sont montées à bord de ce voilier dans l'objectif de briser le blocus de Gaza. Alors elles sont parties de Barcelone le 15 septembre dernier. Il y a eu une escale à Ajaccio, en Corse, une escale en Sicile. En route, leur gréement a été abîmé par une tempête. Il a été réparé par des militants grecs, et oui, qui se sont déplacés en solidarité. Donc vous voyez, c'est quand même une action très internationale. Alors c'est pas le premier bateau, la première flottille qui essaye de briser ce blocus de Gaza. Depuis 2008, il y a plusieurs expéditions, toutes pacifistes, il faut le rappeler, qui ont tenté de forcer le blocus. Ça s'est pas très bien passé, si vous vous souvenez, en 2010, avec le Mavi Marmara. 10 militants ont trouvé la mort suite à l'assaut israélien, de l'armée israélienne. La dernière fois, c'était en 2015, en juin 2015, une flottille avait tenté de briser ce blocus. Hop, il s'était fait aussi recaler. Alors, on se doutait bien qu'une fois de plus, l'État israélien n'autoriserait pas le voilier à accoster, qu'il serait intercepté. On avait vu des images de bateaux, de navires militaires israéliens quittant le sud d'Israël, des images diffusées par la chaîne Al Jazeera. On n'avait pas trop de commentaires, même voire pas du tout, de l'armée israélienne sur leurs intentions. Et puis effectivement, hier, la marine israélienne a intercepté le Zetouna Oliva à 35 miles au large des côtes de Gaza. Donc c'était quand même bien bien proche quand même. Alors d'après les autorités israéliennes, tout ça a été fait, cette intervention, cette interception, pour éviter une violation du blocus maritime légal. Je souris, excusez-moi. Toujours est-il que donc le voilier a donc été embarqué jusqu'aux côtes israéliennes. Les passagères sont détenues à la prison de Givon. Elles devraient être expulsées. Alors, c'est difficile d'avoir des informations. Ce que j'ai réussi un petit peu à savoir, c'est qu'a priori, deux journalistes d'Al Jazeera ont déjà été expulsés. L'une en Grande-Bretagne et l'autre en Russie. Ce matin, l'ONG Women's Boat to Gaza faisait savoir qu'elle n'avait aucune information sur le sort des militantes. A priori, elles ont pu rencontrer le représentant de leur consulat respectif, mais apparemment aucune n'a pu rencontrer un avocat ou même évidemment des membres de l'ONG. Alors évidemment, ça c'est un beau gâchis. Il faut savoir qu'à Gaza, le voilier était attendu. Il y avait des bateaux qui avaient prévu de sortir en mer pour l'accueillir. Il y avait des groupes de musique, des festivités qui avaient été lancées. Donc c'est une grosse, grosse déception, encore une fois, pour cette tentative de briser, de casser ce blocus de Gaza. Je vous rappelle que c'est pratiquement 2 millions d'habitants qui sont dans cette bande de Gaza, enfermés, qui vivent avec le pouvoir en place, avec le Hamas. C'est pas glorieux. On sait par exemple que les fonctionnaires ne sont plus payés depuis longtemps, qu'il y a des problèmes sanitaires, de santé, des problèmes d'accès à l'eau. Ce blocus, il a complètement stoppé toute possibilité économique pour la bande de Gaza. Donc il y a besoin de casser ce blocus et l'État d'Israël maintient ses positions. Il faut savoir aussi que normalement les Gazaouis ont le droit de naviguer pour aller pêcher, et en fait depuis le début des années 2000, les restrictions ont été de plus en plus importantes de la part de l'État israélien. Donc même au niveau de la pêche, ça devient compliqué. Voilà, mais c'est quand même toujours une belle initiative que ces tentatives de casser ce blocus. Et en plus de ça, ce Zeitouna Oliva est aussi une belle initiative parce qu'il est porté par des femmes et que c'est un projet international. Et ça, c'est un bel exemple de solidarité. Voilà, pour ce début de Canu Info. Alors, je propose qu'on parle un petit peu d'avortement. Il me semble que toi, Fabien, aussi, tu voulais revenir un petit peu plutôt sur la Russie. Mais oui. Jean-Yves, tu voulais aussi peut-être nous parler de la Pologne, puisqu'il y a eu des nouveautés.
Oui, il y a eu des nouveautés. Alors déjà, bonsoir.
Bonsoir, très cher.
J'ai pas dit bonsoir, moi.
Oui, c'est vrai.
Ça manquait un peu de respect. Voilà, alors. Oui, alors, il y a eu un revirement, et c'est un revirement pour le parti Droit et Justice, qui était jusqu'à présent favorable à ce projet. Hein. Et en fait, donc, il y a eu des nouvelles manifestations, il y en a d'autres qui étaient attendues en Pologne, pour continuer de défendre le droit à l'IVG, même s'il est très restreint, j'en parlerai peut-être en fin de chronique. Et les conservateurs donc ont voté mercredi, donc hier, en commission parlementaire, contre la proposition de loi sur une interdiction quasi totale de l'interruption volontaire de grossesse. Le rejet, il doit être approuvé par les députés. Et quand même, ce que j'ai trouvé d'intéressant, quand même, c'est les revirements aussi de la Première ministre, qui a quand même attendu les grosses manifestations, la grève lundi des Polonaises, pour mardi faire une petite conférence de presse pour expliquer que le gouvernement n'avait jamais, mais alors jamais, prévu, et n'était pas du tout en train de bosser sur une loi qui changerait la législation de l'avortement.
Ce qui est faux, vu que la loi était proposée.
Bah,
c'est compliqué de pas bosser sur une loi proposée. Quand même.
C'est justement, c'est toute cette incohérence que je relève, et donc voilà, donc pour l'instant, elle serait, on va dire, à peu près sauvée, les Polonaises, en tout cas l'IVG serait normalement encore praticable, mais je voulais quand même vite faire apporter les conditions quand même de cette pratique. Donc déjà, la loi polonaise sur l'IVG, elle est entrée en vigueur en 93 et elle est considérée comme l'une des plus restrictives d'Europe parce que l'IVG est autorisée uniquement dans 3 cas, c'est-à-dire s'il y a un risque pour la vie ou la santé de la mère, si un examen prénatal qui indique une grave pathologie irréversible pour l'embryon, enfin chez l'embryon, pardon, et une grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste. Donc c'est pas perdu, mais je pense que la route est encore longue pour toutes et tous pouvoir, surtout pour toutes, pour qu'elles puissent disposer librement, clairement, librement et totalement de leur corps. Alors, t'as peut-être des compléments
Non, moi j'ajouterais juste que la défense de l'IVG, c'est pas la seule mobilisation dans le pays. J'allais dire malheureusement, c'est déjà assez grave comme ça. Il y a des attaques démocratiques, toutes simples, hein, déjà, on va commencer par ça. Il y a la mainmise du pouvoir sur les médias, d'une manière très très brutale. Et puis aussi sur la culture, ça aussi c'est un élément toujours important chez ceux et celles qui sont plutôt fascisants dans leurs actions. Et ça c'est assez symptomatique de ce qui est en train de se passer en Pologne. Donc il y a d'autres raisons pour les Polonais et les Polonaises de descendre dans la rue.
Et notamment une pensée pour les radios qui ressemblent à Radio Canu en Pologne, qui sont quasiment toutes fermées aujourd'hui, parce qu'on leur a retiré toute subvention et même droit d'émettre, ce qui est très pratique pour qu'on puisse plus exister. J'enchaîne avec le pays de pas très loin, la Russie. Donc, je vous connaissez peut-être pas, mais vous connaissez ou pas, ou je sais pas si vous le connaissez ou pas, mais Monsieur Kirill, ça vous dit quelque chose, Monsieur Kirill, le grand patriarche orthodoxe russe. Autrement dit, le méga chef des orthodoxes avec sa croix qui se rétracte pour rentrer dans sa voiture. Enfin, un gars qu'on a vu deux, trois fois. Alors, le 27 septembre, il a signé une pétition demandant l'interdiction de l'IVG en Russie. Avec son grand ami, le moufti Talgat Tajouddin, qui sont aujourd'hui les deux grands tenants des deux religions principales de Russie. Et donc, ils ont signé cette pétition. Alors, on pourrait se dire, c'est pas bien grave, c'est des religions, on n'est pas trop surpris. Le problème, c'est qui signe à côté d'eux ? Parce que c'est là que ça devient intéressant, malheureusement. C'est qu'à côté d'eux, il y a la signature de Anna Kuznetkova. Et qui est cette brave dame ? Eh bien, c'est la déléguée aux droits de l'enfant en Russie. C'est-à-dire, c'est une proche de Poutine et du pouvoir. Et elle signe cette pétition, et elle le dit, non pas en tant qu'individu, mais en tant que représentante du pouvoir exécutif. Donc c'est là que ça devient un petit peu plus gênant, parce qu'on voit que cette pétition Alliance de Sabre et du Goupillon habituelle fait que en Russie aujourd'hui, on a une grande propagande depuis une semaine. En gros, les médias se sont lâchés, vu qu'ils ont l'appui d'une membre du gouvernement, contre l'avortement dans à peu près toute la presse russe et à peu près toute la télévision russe, qui sont, je vous le rappelle, tenues à 90% par des proches de Vladimir Poutine. Donc c'est assez pratique pour faire passer une idée. Pour mémoire, l'avortement en Russie est légal depuis 1920. C'était un des premiers pays, à l'époque c'était l'URSS, mais c'était un des premiers pays à légaliser l'avortement. Et donc, c'est pas une pratique qui serait apparue, comme le laisse entendre monsieur Kirill, venant de l'Occident qui vient nous pervertir. Hein. Donc voilà, c'est un peu l'idée qu'il met en avant depuis bientôt une semaine. Donc il a toujours un peu les mêmes arguments. L'avortement, c'est contre l'Église, évidemment, parce que, comme il le dit, et attention, ce sont ses vrais propos. Imaginez que l'on ait fait avorter de force la Vierge Marie, nous n'aurions jamais eu Jésus. Voilà, hein, faut s'accrocher quand même. Contre les enfants, bien sûr, parce que évidemment on tue des enfants, d'après ce monsieur, et surtout, ça empêche la Russie de retrouver sa grandeur d'antan. Et là, je vais le citer encore une fois, en tuant des milliers de vaillants russes avant même qu'ils n'aient poussé leur premier cri. Voilà, on est dans la propagande habituelle des religieux face à l'avortement, hein, quelle que soit la religion, on remarquera. Et ça s'inscrit dans ce qu'il y a en Russie depuis maintenant quelques années. On a déjà eu une loi qui rendait plus difficile le divorce, je vous le rappelle, en Russie. Une autre loi qui était dirigée contre les homosexuels, lesbiennes, gays, bi et trans. Une loi qui interdit la transidentité, voilà, carrément, maintenant, qui est en cours de discussion, qui dit que la transidentité n'existe pas. Voilà, c'est une loi qui devrait arriver en Russie, malheureusement. Et bien sûr, maintenant, on s'attaque aux droits des femmes à disposer de leur corps. On voit que partout les réactionnaires reviennent au pouvoir, c'est pas très bon pour tout le monde en général, et en priorité, en principalement pour les femmes et les minorités. Et puis en gros, je reprendrai ce qu'a dit une militante féministe russe qui tient à rester anonyme, donc on a qu'à voir un petit peu le climat qui est en ce moment pour qu'elle fasse cette déclaration anonyme. La Russie réactionnaire rêve a priori d'un nouveau tsar et de l'époque qui va avec. Voilà, ça résume ce qui se passe aujourd'hui en Russie.
Alors on va parler des barbares. Vous savez que dans ce Canu Info, les barbares désignent les États qui assassinent, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la peine de mort. Et vous savez peut-être aussi que le 10 octobre prochain, c'est la journée mondiale contre la peine de mort. Voilà, juste histoire d'avoir une petite pensée ce jour-là. Et on va parler de l'Arabie Saoudite. Et oui, ça faisait bien, bien longtemps. Vous savez que nous suivons le décompte. Alors, c'est pas le premier pays qui assassine dans le monde. Mais il faut dire que cette année 2016 est plutôt pas mal si vous nous rejoignez pour cette saison. Sachez donc qu'en 2015, 153 personnes ont été exécutées en Arabie Saoudite. Et c'était un niveau inégalé depuis 20 ans. Donc, nous suivons l'avancée pour cette année 2016. Et depuis le 1er janvier, nous en sommes à la 124e exécution. On se rapproche du nouveau record quand même, il faut le dire. Alors là, c'est une Éthiopienne, Zamzam Abdallah, excusez-moi, Boric, qui a été exécutée le lundi 26 septembre, c'est-à-dire la semaine dernière. Elle avait été condamnée pour le meurtre d'une fillette. On rappellera aussi, si vous nous rejoignez pour la première fois, que quoi qu'ait fait les gens qui sont condamnés à la peine de mort, nous on s'en fiche, on est juste contre la peine de mort. Et puis il faut savoir que malgré tout, en Arabie Saoudite, il y a aussi des gens qui sont condamnés à la peine de mort pour des raisons que là nous critiquons. C'est le cas de Mbayang Diop, c'est une Sénégalaise qui est emprisonnée, qui risque la peine de mort pour avoir tué sa patronne. En Arabie Saoudite, il y a un certain nombre d'esclaves, de gens qui voient disparaître leur passeport, leurs papiers. Et c'est le cas ici. Voilà. Bon, l'Arabie Saoudite, en général, exécute pour des affaires de drogue. Hein, ça, voilà. Ouais. Il y a aussi beaucoup de meurtres entre Saoudiens. On se demande tous un petit peu quelle drogue... pas d'alcool, ils peuvent bien prendre, mais enfin en tout cas, alors on sait qu'en Arabie Saoudite les gens boivent aussi, hein, il faut arrêter de se cacher même si ça peut pas forcément se faire d'une manière bien visible, en tout cas ils s'emportent souvent entre eux, et ce qui donne lieu quand même à du coup 124 exécutions pour cette année 2016. Alors Fabien, je sais que tu vas me dire qu'il y a effectivement d'autres états qui exécutent beaucoup, et je sais que tu vas penser tout de suite à l'Iran.
Surtout aujourd'hui.
2015, 966 personnes ont été exécutées. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a 150 députés iraniens à peu près qui ont signé cette semaine une proposition d'amendement visant à commuer les condamnations à la peine de mort d'individus poursuivis pour trafic de drogue en peine de prison. Alors comme ça, ça a l'air de rien, sauf que beaucoup des condamnés à mort sont jugés condamnés pour des affaires de drogue.
Ouais, quasiment un sur trois quand même.
C'est ça, c'est donc ça vaut le coup comme proposition.
Ouais, tout à fait.
Bon, j'ai l'air très optimiste, mais il ne faut pas l'être en fait, parce que ça a peu de chance d'aboutir, il faut bien le savoir, il y a tout un tas d'étapes qui fait que cette proposition va être bloquée, mais c'est quand même un signe encourageant qu'il y a une réaction contre la peine de mort en Iran. 966 personnes en 2015.
Et pendant la série des bonnes nouvelles sur les barbares, il y a aussi le Texas qui a une pétition qui a été signée par des tas de Texans et de Texanes qui appellent à l'abolition de la peine de mort au Texas. Je vous rappelle que c'est l'état qui assassine le plus aux États-Unis. Voilà, par peine de mort.
Alors, moi, je propose qu'on parle un petit peu de Frontex.
Oui, avec plaisir, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fin de Frontex. Et oui, alors là, on pourrait se réjouir et se dire, tiens, c'est chouette, ils ont décidé d'enlever cette espèce d'armée qui garde nos frontières. Ben non, parce qu'en fait, ils changent juste le nom, en réalité. C'est-à-dire que Frontex devient officiellement les gardes-frontières européens. C'est joli comme ça. Ils n'ont pas encore d'acronyme.
Ouais, c'est ce que j'avais demandé.
Je cherchais ce que ça peut faire, c'est feu. Et c'est assez bizarre, mais je pense pas que ce soit ce qu'ils prennent. Mais voilà, donc c'est les gardes frontières européens. Alors, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'en réalité, Frontex, je vous rappelle, c'était en tout et pour tout au final 830 hommes et femmes, mais c'était 830 personnes. Donc c'était pas un contingent excessivement élevé. Et en fait, ça fonctionnait pas très bien Frontex en réalité, et ça permettait quand même de passer les frontières.
Oui,
ça laissait des passages, donc c'était plutôt positif, on va dire ça comme ça. Sauf que là, en fait, la Commission européenne, et je vais le dire quand même, appuyée par tous les États européens, y compris le Royaume-Uni qui viennent de voter le Brexit, ils ont voté la création de ces fameux gardes-frontières européens. Alors ce sera entre 1500 et 3000 hommes pour commencer. Alors je dis bien pour commencer parce que c'est une expérimentation d'une première année et si ça marche bien, on gonflera les effectifs. Alors j'aime bien ce qu'ils mettent hommes, à croire qu'il n'y a pas de femmes, mais bon voilà, ça va être le sens militaire parce qu'on voit que c'est tenu, à la différence de Frontex, cette fois-ci par des militaires et pas par des policiers civils. Vous voyez, déjà, on sent bien le glissement qu'il y a. Hein. Donc des gardes-frontières. Et donc, ils vont réquisitionner de force les gardes-frontières et gardes-côtes des pays de l'Union. Et ils n'auront pas le choix. C'est-à-dire qu'en gros, toi, choisis d'être garde-côte pour sauver des gens quand il y a des tempêtes. Et en fait, on va gentiment te dire, maintenant, tu rentres dans les gardes-côtes européens et c'est plus ta mission. Parce que la première mission des gardes-côtes européens, c'est de fermer clairement les frontières européennes. De les rendre hermétiques, c'est les mots, hein, j'invente rien, c'est les mots de leur mission, de les rendre hermétiques au plus possible, alors je ne sais pas ce qu'est le plus possible, et par tous les moyens, y compris des moyens élargis, pouvant entraver les droits des États-nations sur lesquels cela se passe. Ce qui veut dire donc que les gens de Frontex, des gardes-frontières européens, seront donc autorisés à potentiellement tirer, même si sur l'état dans lequel ils se trouvent, on leur dit « vous n'avez pas à le faire ». Voilà. C'est donc un petit peu étrange, hein. C'est entre un état fédéraliste et un état pas fédéraliste, si vous voulez, quoi.
Autoritaire.
Mais toujours très autoritaire, hein. Alors, bien sûr, en quatrième position, ils ont une mission de secours, quand même, hein. S'ils voient des gens qui sont en train de mourir, ils sont censés quand même les aider.
Fois qu'ils auront tiré, tout ça.
Et c'est un petit peu la question que se pose notamment le GISTI, qui s'occupe des migrants l'Iran, ils disent mais alors attendez, s'ils commencent d'abord par fermer la frontière, tirer, et ensuite se dire tiens ils sont en train de se noyer, on va peut-être faire quelque chose, c'est un peu bizarre comme façon de faire. Donc voilà, donc on voit bien que l'idée est quand même juste de fermer les frontières européennes, encore une fois, de faire des murs, parce que une des missions de ces nouveaux gardes va être de créer des frontières physiques. Donc on voit bien vers quoi on va. Et pour finir, ça c'était la deuxième mission, celle-là était pas mal. Hein. Et donc pour finir, je vais juste rappeler quelque chose qui me paraît important de savoir. L'Europe chaque année accueille 600 000 personnes non européennes sur son territoire par ce qu'on appelle les déplacements habituels du monde. C'est les gens qui viennent s'installer en France, au Royaume-Uni ou n'importe où. Donc ces 600 000 personnes, si nous devions laisser rentrer cette horde de barbares qui attend à nos frontières, comme diraient tous les petits fachos, en fait ça ne ferait qu'augmenter au maximum du double, c'est-à-dire on passerait à 1,2 millions de personnes accueillies dans l'année, ce qui est largement absorbable. Je vous rappelle qu'on est 500 millions en Europe quand même, et qu'on a un des territoires habitables le plus grand du monde, donc on a de la place. Et juste quand même pour rappeler, et ça c'est un petit coucou à monsieur Dupont-Aignan, enfin plutôt Ducon-Aignan dans son cas-là, c'est que les pays limitrophes de la Syrie accueillent aujourd'hui 4,7 millions de réfugiés sur leur sol, pour un territoire habitable qui vaut un cinquième de l'Europe. Voilà, vous ferez des calculs et vous vous dites que finalement, pour une invasion, ils ne sont pas beaucoup. Voilà. Donc voilà. Mais on crée quand même cette nouvelle petite armée pour fermer nos frontières.
Alors, monsieur Wauquiez ne serait pas d'accord avec toi. Oui, je tiens d'abord à le signaler. Alors, on va continuer avec les profiteurs collabos. Alors, les profiteurs, vous savez ce que c'est ? C'est les multinationales, les groupes, les entreprises, les capitalistes. Et parfois, ils collaborent bien. Surtout quand il s'agit de sécuritaires. Et on va parler de Yahoo. Qu'est-ce qu'on se marre avec Yahoo dans l'actualité ? Quand ce n'est pas les affaires économiques, c'est d'autres affaires. Alors, tout a démarré avec un article publié mardi par Reuters, l'agence de presse, qui nous explique que Yahoo a conçu et mis en place en 2015 un programme informatique pour surveiller en temps réel les boîtes mail de ses utilisateurs afin d'y détecter des mots-clés. C'est un peu globalement, pour caricaturer, ce qu'on nous explique. On n'a pas bien plus d'infos sur la nature exacte de ce logiciel, programme, petite chose. Alors, l'enquête de l'agence Reuters s'appuie sur les témoignages d'anciens employés de Yahoo. Et selon Reuters, Yahoo a accepté de répondre à la demande de la NSA et du FBI aux États-Unis d'Amérique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on en sait quand même un peu sur ce qui s'est passé à Yahoo, puisque l'existence du programme de Yahoo a été gardée secrète au sein de la multinationale même, puisque le directeur de la sécurité informatique de Yahoo, Alex Stamos, n'était pas au courant. On a appris qu'en mai 2015, il avait découvert ce qu'il pensait être un piratage externe. Et Alex, tout content de lui, il est allé alerter la direction, et là-dessus il a découvert en fait que c'était un programme interne autorisé par madame la PDG, madame Marissa Mayer. Là-dessus, monsieur Stamos a démissionné et il est parti à la concurrence chez Facebook.
Ah oui. Il aime bien quand il peut espionner quand même un peu, quoi.
Voilà, tant qu'à faire. Ah c'est pas le même, là on est sur du réseau commercial, ah oui, si tu veux. Chez Yahoo, c'était un acte caché.
C'est vrai.
Pas tout à fait pareil, je vous rappelle que vous signez des petites croix pour dire que vous êtes tout à fait d'accord quand vous ouvrez un profil Facebook, donc quelque part vous êtes un peu responsable de vous faire surveiller. Voilà. Alors, Yahoo n'a démenti en fait qu'assez partiellement les accusations. Cependant, a expliqué que Yahoo est une entreprise respectueuse de la loi et elle se plie aux lois des États-Unis. D'accord. Alors, à côté de ça, Yahoo nie avoir répondu à des demandes très importantes, déclare que l'article est trompeur, que en fait la multinationale n'a transmis qu'une partie des données pour minimiser la divulgation. J'ai beaucoup aimé ce petit paragraphe. Et que finalement le logiciel n'existe même pas. C'est un petit peu la position aujourd'hui de Yahoo. Yahoo ne surveille pas ses utilisateurs, c'est pas vrai. Alors, c'est la première fois qu'une entreprise est accusée de créer un lien direct en temps réel pour les services de renseignement. C'est-à-dire pas simplement des fichiers qui sont donnés au renseignement, mais là, c'est permettre en temps réel à ces services de renseignement de pouvoir tout analyser, ce qui n'est pas la même chose, qui n'est pas la même procédure.
Ce qu'ils appellent en très bon français les backdoors, c'est-à-dire le fait de pouvoir rentrer quand ils veulent pour regarder ce qui se passe.
C'est pas du tout le même principe. Yahoo est allé plus loin, c'est-à-dire que n'a pas simplement permis de pouvoir surveiller a posteriori vos mails. C'est quand même un outil d'espionnage massif, il faut bien le dire. Et puis surtout, Yahoo, là, la critique va sur quelque chose d'assez fondamental aux États-Unis, c'est que la multinationale ne s'est pas battue contre cette demande. Finalement, elle l'a collaboré et elle a accepté de le faire. Alors, depuis ce papier de Reuters, le New York Times a publié un article. Selon le journal, c'est un juge fédéral qui aurait ordonné à Yahoo de rechercher une signature numérique dans les courriels dans le cadre d'une enquête terroriste. Voilà, ça c'est les explications du New York Times, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde a en tête avec cette affaire un programme de la NSA qui s'appelle Prism. Ça doit certainement vous dire quelque chose. Ça a fait scandale puisque on avait appris l'existence de Prism dans le cadre des révélations en 2013 par Snowden, et qui expliquait que donc la NSA avait un accès direct aux données des multinationales comme Google, Apple, Facebook et aussi Yahoo à l'époque. Alors cette semaine, tout ce que je viens de citer, plus Microsoft, on y est avoir reçu et exécuté une demande similaire à celle faite à Yahoo. On sourit aussi. Alors, Google explique n'avoir jamais reçu une telle demande et que de toute façon, la réponse aurait été simple, en aucun cas. Microsoft assure n'avoir jamais participé à une analyse secrète du trafic email telle que celle décrite aujourd'hui à propos de Yahoo. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas reçu une autre.
C'est vrai.
Hein ? Faut bien analyser la phrase. Moi, je l'ai relu deux fois et je me suis dit, il se moque de moi quand même. Alors, on peut se dire que quelque part, Prism, ça a fait scandale. Et ça fait encore scandale, puisqu'on ne sait toujours pas bien, hein, finalement, comment fonctionne cette chose. Donc, on peut se dire que c'est un peu logique que les services de renseignement des États-Unis d'Amérique essayent de refiler la chose aux multinationales pour qu'elles mettent en place elles-mêmes les outils de surveillance. C'est pas con, hein, parce que là, c'est Yahoo qui est dans la tourmente. C'est pas la NSA, c'est pas le FBI, hein, c'est bien Yahoo. Alors, évidemment, aux États-Unis d'Amérique, ça choque. La surveillance de masse, on commence quand même à beaucoup en parler, c'est difficile d'être naïf sur le sujet. Ça a provoqué la colère de l'American Civil Liberties Union, qui a dénoncé une atteinte au 4e amendement de la Constitution, qui garantit le droit à la protection contre les perquisitions abusives. Du côté européen, le commissariat, excusez-moi, à la protection des données a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer si, ici aussi en Europe, les utilisateurs ont été concernés par cette surveillance. Bon, ça fait beaucoup pour Yahoo, hein. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, c'était le 22 septembre dernier, une petite révélation qui n'a rien à voir avec ce que je vous expliquais à l'instant. On a appris qu'il y avait eu un piratage massif du côté de Yahoo. Alors à l'époque, on avait parlé de 500 millions d'utilisateurs dont les données personnelles auraient été piratées. Le chiffre a été depuis revu à la hausse, c'est-à-dire que... Beaucoup, beaucoup à la hausse, on n'est pas bien sûr. Moi, je n'ose pas donner de chiffres, mais les chiffres annoncés...
A priori, il y a des gens qui disent que c'est l'ensemble des utilisateurs, en fait, pas
ouais,
juste
on parle de milliards.
Petite poche. Ouais, c'est ça.
Hein. Voilà, on peut le dire.
Bah, Yahoo, c'est, pour info, hein, Yahoo, c'est 4 milliards d'utilisateurs.
C'est ça, non, mais c'est donc, tout le monde. Ouais. C'est ça l'idée, en fait.
Hein, c'est tous ceux qui ont un PC, à peu près.
Voilà. Donc, allez-y, vous avez bien une petite adresse Yahoo hein, chez vous. Hein. Alors, ça fait aussi causer, c'est-à-dire que on a appris le 22 septembre dernier cette histoire de piratage qui date d'il y a 2 ans. C'est-à-dire que soit Yahoo est complètement incompétent,
soit pas.
Soit malhonnête.
Option 2.
Option 2. Alors, moi, du coup, je me suis intéressée à la partie écho de Yahoo. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que tout ça n'a pas plombé du tout le cours des actions de Yahoo. Mais alors, pas du tout. Là, il y a le cynisme des actionnaires qui est en marche. Ça n'a pas du tout entamé la confiance des investisseurs qui tous continuent à parier sur le rachat de Yahoo par Verizon. Verizon, c'est un opérateur télécom qui a mis 5 milliards de dollars sur la table pour accueillir la multinationale. Bon... Peut-être que ça gêne pas aussi à Verizon, puisque j'ai pu relire que le New York Times soupçonne Verizon de faire la même chose. Donc peut-être qu'entre amis, finalement, ça gêne personne.
C'est d'ailleurs l'opérateur qui fournissait les téléphones satellites de la CIA.
Oui.
Donc on imagine bien qu'ils les connaissent pas mal. D'autres profiteurs, peut-être.
Alors on pourrait parler peut-être d'une privatisation.
Oui. Alors quand vous avez des amis qui ont des trains, surtout... jouer un grand jeu comme Monsieur Estrosi. Vous savez, Monsieur Estrosi, c'est le guide suprême des les Républicains de la région PACA. C'est celui que vous voyez partout, à Nice, en la région PACA, partout, partout, partout. Estrosi, vous le voyez de partout. Et en fait, eh ben, il a pris la décision de faire passer à la concurrence tous les TER de la région. Voilà. Il a tapé des petits points sur la table, il a dit oui, il y en a marre, les TER c'est la SNCF, ça fait 10 ans que ça dure. Alors je vous rappelle qu'il y a des conventions de 10 ans et que voilà, c'est comme ça, hein, c'est des appels d'offres européens, donc ils n'avaient pas vraiment le choix. Enfin je veux dire, ils n'avaient pas le choix qu'elle fasse 10 ans, c'est comme ça, c'est la règle. Donc il a dit bah là ça se termine, donc moi j'en ai marre, parce que bon, la SNCF, ça veut dire, elle est très très méchante la SNCF, parce qu'il y a toujours des grèves, hein, 86 jours de grève en 10 ans, ce qui fait 8 jours par an. Hein, 9, allez, soyons. et c'est pas bien parce que à la SNCF, de toute façon, les conducteurs, bah, ils sont tous à la CGT et ça pose problème. Ah, il a dit comme ça, hein, vraiment.
Il a vraiment dit ça.
Oui. En conseil de la région PACA. Donc, alors moi je n'y croyais pas au début, j'ai cru que c'était un gag qui était fait par le journaliste qui relatait. Donc je suis allé voir les images, parce que vous savez, vous pouvez voir les images, et il a vraiment répondu ça à une élue communiste en lui disant ah bah ça m'étonne pas que vous aimiez bien les chauffeurs de la SNCF parce qu'ils sont tous à la CGT. Bon bref, voilà, donc Estrosi, hein, grande classe, hein, toujours. Voilà, alors le problème c'est que normalement la directive européenne qui impose aux États d'ouvrir à la concurrence les transports de personnes sur le rail ne devraient arriver qu'en 2019. Je vous rappelle qu'elle a été votée. Alors, je vais juste leur dire, elle a été votée à l'initiative de la France, hein, un premier pays qui l'a demandé avec le Royaume-Uni et la Belgique. Donc, il faudrait peut-être un petit peu ne pas trop croire quand on vous dit, notamment un petit agité en ce moment qui fait campagne aussi chez les Républicains, qui vous dit que jamais lui, il aurait accepté ça, parce que c'est lui qui l'a proposé. Donc, voilà. Et donc, en fait, en 2019, il va y avoir l'ouverture à la concurrence. C'est une obligation européenne et aucun pays ne pourra s'y soustraire sous peine d'amende. Et les amendes sont élevées parce qu'elles font 27 millions d'euros par jour. Donc, vous imaginez, ça va très très vite. Donc du coup, tout le monde ouvrira la concurrence parce que personne ne veut payer l'amende. Mais M. Estrosi dit, ça ne va pas assez vite. Alors il dit, il faut vite privatiser. Donc lui, il demande à ce qu'une loi soit présentée à l'Assemblée nationale dès demain. Voilà, je ne sais pas comment il fait, parce qu'il n'y a pas de truc à l'Assemblée nationale demain, mais il veut que dès demain, il y ait une loi qui soit présentée et que cette loi propose que des régions puissent, à titre expérimental, ouvrir à la concurrence avant 2019, afin de préparer les autres régions à la future ouverture à la concurrence. Il est gentil quand même, M. Estrosi, il pense à toutes les régions de France quand même. Alors, il est un petit peu appuyé par son pote, celui qui a les Hauts-de-France là maintenant. Vous savez, c'est comment il s'appelle, Xavier Bertrand qui dit, ouais, quelle super bonne idée. Ouais, c'est un peu, voilà. Donc, ça fait déjà deux régions. Et le problème, c'est qu'il n'a pas renouvelé, du coup, la concession avec la SNCF, qui était en renégociation. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, la SNCF, elle dit, bah, si j'ai pas de concession, bah, on va pas me payer. Et si on me paye pas, bah, moi, je fais pas rouler les trains. C'est un peu normal. Alors là, monsieur Estrosi, il a sorti de sa manche un super truc. Vous allez voir que la boucle est bouclée. Il a dit, bah, c'est pas grave. Là où il y a pas de TER, bah, on mettra des bus Macron. Voilà, la boucle est bouclée entre les libéraux. Donc voilà. Alors je disais, quand vous avez des amis dans le train, parce que c'est marrant, parce que la première société que monsieur Estrosi a citée, c'est une société italienne, Tello. Ça vous dit peut-être quelque chose, ils ont déjà un train qui fait Lyon-Milan. Voilà. Qui est une succursale de la ex-Lyonnaise des Eaux, ex-Suez, ex et maintenant Engie. Donc vous voyez, c'est tac tac tac. Et en fait, on découvre par le plus grand des hasards que monsieur Estrosi, eh ben, le parrain d'un de ses fils, il est au directoire de Tello.
C'est bien fait, moi, je trouve.
C'est un truc. Mais c'est par hasard qu'il a cité cette boîte. Voilà.
Que le hasard réunit toujours les tenants de.
Les gens qui s'aiment.
C'est ça.
Donc voilà. Et donc, bah, la région PACA, je pense, moi, aux gens de la région PACA, parce que je vous rappelle juste une chose, c'est que les TER, ça concerne pas vraiment les grandes villes. Mmh. Ça concerne pas vraiment les gens qui ont les moyens d'habiter à Nice, par exemple. Ça concerne tous les gens qui sont à l'extérieur et qui vont travailler vers les villes. Et eux, ils vont devoir galérer dans des bus. En moyenne, j'ai trouvé, ça va augmenter leur trajet d'à peu près une demi-heure par trajet. C'est énorme, quoi. Voilà. Tout ça pour privatiser plus vite.
Enfin bon, on espère quand même que vous avez tous et toutes acheté votre TGV pour soutenir l'usine de Belfort.
Oui. Ils ont fait un crowdfunding.
Parce que c'est important. Puis vous savez, un petit TGV dans votre jardin, ça sera sympa. C'est vrai qu'on avait quand même bien, bien des moyens depuis des années de soutenir ce site d'Alstom Belfort. Oui. Et puis, on se retrouve à acheter des trains que la SNCF n'en veut pas. Personne n'en veut.
Ils ne savent pas où les faire rouler, surtout.
Bon. Mais enfin, voilà, c'est super d'être salarié chez Alstom. D'une manière générale, ça pue, Alstom. Hein. Je veux dire, les salariés, il n'y a pas que l'usine de Belfort. Et les ouvriers, chez les cadres aussi, c'est compliqué. Donc, c'est une belle multinationale aussi. Alors. Moi, je vous propose que maintenant, on parle dans le Val d'Oise.
Allez.
À Sarcelles. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Sarcelles. Parce qu'à Sarcelles, la démocratie, elle est en marche. Mmh. Oui. Du 3 au 9 octobre, les habitants de Sarcelles sont appelés à donner leur avis dans le cadre d'une concertation citoyenne sur le port d'armes des 18 policiers municipaux, aujourd'hui uniquement équipés de tonfa et de lacrymo. La question, souhaitez-vous que la police municipale de Sarcelles soit équipée d'armes à feu? C'est simple, moi j'ai été voir le petit bulletin, puisqu'on pouvait le récupérer directement sur le site internet de la ville. Alors tout le monde a le droit de participer à cette concertation, quelle que soit la nationalité. Du moment que vous avez 18 ans et que vous pouvez prouver que vous habitez à Sarcelles, vous avez le droit de participer, même si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales. La démocratie donc est en marche. Alors... Tu peux sourire, Jean-Yves, mais il paraît que c'est dans un souci de démocratie participative que la municipalité a mis cette concertation en place, puisque ça relève du choix des habitants. Alors, la municipalité tient quand même à préciser que cette demande de port d'armes est une initiative des policiers qui demandent, depuis les attentats, d'être équipés d'armes à feu afin de mieux se protéger et de mieux protéger la population. Alors, moi, je me suis demandé si, du coup, les fonctionnaires avaient tous le droit de lancer des consultations citoyennes afin d'obtenir, eux et elles aussi, quelque chose. Parce que là, c'est un peu ça, quand même. On donne l'opportunité à une partie de la fonction publique de réclamer quelque chose. Sous quand même l'égide de la démocratie et des citoyens, quand même c'est important. Alors si le oui l'emporte, la mairie a expliqué qu'elle allait déposer une demande d'autorisation auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Je vous rappelle que l'état d'urgence facilite ce passage à l'armement au niveau des policiers municipaux. Ah bah oui, il y en a, ils se sont hop lancés dans la petite brèche hein, quand même. Alors sur place, heureusement il y a des opposants. Il y a un certain nombre de tractages qui ont déjà commencé. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a un collectif qui s'est créé. Alors évidemment, le Parti communiste de Sarcelles a imprimé un tract non à l'armement de la police municipale, oui au renfort des effectifs de la police nationale. C'est là où il y a un peu où il y a des discours qui sont pas tout à fait les mêmes sur place, parce qu'il y en a, ils disent non à la police tout court, non à l'armement tout court. Mais voyez, il y a quand même un certain nombre de gens qui étant quand même de faire front face à cette consultation. Sur Sarcelles, ce qui est craint, c'est l'abstention essentiellement, parce que c'est le cas tout le temps. Alors sur une telle consultation, c'est pas bien ce que ça va finir par donner. Et puis évidemment, dans les critiques qu'on pourrait faire nous aussi assez simplement, c'est qu'on nous parle d'assurer une meilleure sécurité des policiers et des citoyens. Beaucoup se demandent ce que ces policiers municipaux vont faire face à les Kalachnikovs ou face à un camion. Et puis certains et certaines s'inquiètent aussi et aimeraient bien qu'on fasse le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui avec aux États-Unis d'Amérique, où la police tire sur tout ce qui bouge. Alors, surtout si c'est noir, il faut bien le dire, mais quand même, la police fait usage d'armes à feu d'une manière assez régulière et fréquente. En France, c'est quand même heureusement pas encore trop le cas, donc armer les policiers municipaux, bah, ça rajoute encore de la dangerosité dans la rue. Rendez compte, on va être dans l'insécurité bientôt, peut-être. Et puis, les critiques aussi les plus mesquines rappellent que pendant qu'on parle de la police municipale, on ne parle pas des vrais problèmes des gens à Sarcelles.
Ah oui, c'est pratique.
Et oui, c'est très très pratique. Enfin, vous pouvez aller voir sur la ville de Sarcelles, il y a des super infos avec des beaux documents PDF à télécharger et à lire. Vous allez voir, c'est passionnant. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce rapport du Haut Conseil à l'égalité, Jean-Yves, si tu le veux bien.
Oui, tout à fait. Alors oui, alors c'est comme tu le disais si bien, c'est le Haut Conseil à l'égalité. C'est une instance consultative et indépendante. Hein, elle va pas changer la face de plein de choses. Rassurons-nous. Enfin non. Alors en fait, c'est donc ils ont sorti un rapport hier qui a été remis à la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes et à la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité de l'Assemblée nationale. Et ce rapport, c'était donc avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles. Et donc en fait. C'était dans Le Parisien, il y a eu une interview en fait de la présidente de cette instance, de ce Haut Conseil, qui s'appelle Daniel Bousquet, et en fait, qui reviennent sur pourquoi et comment expliquer, comment lutter contre cette tolérance sociale, parce que c'est comme ça que ce Haut Conseil à l'égalité a nommé tout ce qui était autour du viol en fait. Et donc je sais pas si je vous rapporte un peu quelques éléments de cette interview, mais c'est très intéressant, je trouve, en fait. Alors donc elle Je vais essayer de me reprendre un petit peu. Donc, pour eux, c'est cette ancienne députée, Danielle Bousquet, pardon, elle appelle à l'organisation d'une grande campagne gouvernementale de sensibilisation sur le viol. La première à ce niveau, c'est pas qu'il y en a d'autres qui ne font rien, c'est juste qu'on n'a pas les moyens de l'État, et qui pourrait être lancée dès fin novembre. Et donc l'entretien, c'est un peu pourquoi donc cette campagne contre le viol. Elle répond donc parce qu'on n'a pas encore en France pris conscience que le viol est un crime grave, passible de la cour d'assises et pas un fait divers. Le viol est un phénomène massif, une violence des hommes sur les femmes. 98,2% des victimes sont des femmes, c'est bon de se le rappeler, qui concerne 84 000 personnes chaque année. Et seulement, malheureusement, une femme victime sur 10 porte plainte, et que selon elle, il faut absolument accélérer la mobilisation, donc il faut absolument sensibiliser et faire des campagnes, etc. etc. Donc on lui demande, vous parlez de tolérance sociale, votre imprégnation d'une culture de violeur qui est dénoncée dans le rapport, et en fait on lui demande si le regard de la société n'a pas changé là-dessus. Et elle dit, il n'a absolument pas évolué, pardon, pas assez. Lorsqu'une affaire concerne une personnalité publique importante, l'émotion est vive. Et puis, après, ça continue comme d'habitude. Et qu'au quotidien, la façon de présenter les agresseurs dans les médias, dans certaines publicités, démontre qu'il règne encore une grande tolérance à leur égard. L'homme qui s'en est pris à une adolescente restera toujours un bon père de famille et qui aura simplement fauté, c'est une erreur. Et la pseudo-responsabilité de la victime sera forcément mise en avant, la gamine avait forcément une jupe trop courte ou n'aurait pas dû se retrouver là si tard. C'est toujours la faute aux victimes en fait et jamais aux bourreaux. Donc après, il parle un peu quand même des avancées qu'il y a eu. Elle dit un progrès indiscutable qui a été fait. C'est 513 référents violences faites aux femmes qui ont été nommés dans les services d'urgence. Même si elle dit qu'on pourrait faire vraiment beaucoup mieux, comme ce qui se passe au CHU de Bordeaux, où en fait là-bas il y a l'expérience de la cellule d'accueil d'urgence des victimes d'agression. Ce qui veut dire que les victimes, elles peuvent y aller directement sans passer par un dépôt de plainte ou autre. Donc elles sont au mieux prises en main, accompagnées, et elles portent davantage plainte. Jusqu'à 3 fois plus quand même. Donc c'est quand même, encore une fois, c'est pas anodin. Pardon.
À Bordeaux, il y a la présence par exemple de juristes, c'est-à-dire qui sont là 24 heures sur 24 et qui leur expliquent leurs droits et ce que ça ouvre en fait de ne pas laisser passer juste ça. Et ça paraît bête, mais c'est extrêmement important. Je rappellerai juste que pour quelqu'un qui ne porte pas plainte, les soins ne sont pas forcément pris en charge, alors que ça peut l'être pour quelqu'un qui porte plainte. C'est un exemple tout bête de ce qu'on leur rappelle, et c'est pas idiot de leur dire. Mais sauf qu'il n'y a qu'à Bordeaux que ça se fait.
C'est ça. Et elle appelle donc à l'élargissement de ce procédé. Après, il s'est suivi d'une autre interview. Je suis désolé, c'est un peu déconstruit, mais un peu comme on est arrivé dans ce canon info. Et après, il y a aussi, pardon, je suis désolé, il y a une interview aussi de la présidente du collectif féministe contre le viol, le CFCV, qui d'ailleurs aussi fête ses 30 ans. Ça fait 30 ans que la ligne est ouverte. Je vous donnerai le numéro après, parce qu'il n'est jamais inutile. Donc, c'est aussi parler un peu de comment que ça se passe, etc., etc. Et elle dit que, effectivement, majoritairement, c'est briser le silence, en fait, qui est déjà une étape absolument, absolument primordiale. Parce que c'est ce qu'elle dit, et souvent, au bout du fil, il y a des voix en détresse qui soupirent et qui disent « c'est la première fois que quelqu'un me croit, en fait ». Bah ouais, parce que le truc, c'est que souvent, les agresseurs, c'est un ami, c'est le bon mari, c'est un collègue de travail. Donc elle cite des exemples, elle cite l'exemple d'une femme employée dans une crèche dont le violeur venait chaque matin s'asseoir en face d'elle dans le bus. D'une autre femme aussi âgée de 80 ans, violée par son patron à 18 ans. Faites le calcul, c'était à 62 ans, sur le coin d'un bureau. Et elle dit, ça a gâché ma vie, je n'ai jamais pu en parler. Et donc c'est parce que dans 90% des cas, le violeur est un proche, encore une fois, c'est le bon mari, le collègue sympa, et que c'est toujours avec cette crainte de ne pas être entendu, et parfois aussi des menaces, la proximité aussi avec le bourreau, qui fait que ben plein de victimes se taisent. Et donc voilà, donc je trouvais qu'encore une fois, il est absolument primordial qu'on saisisse tout ça. Donc je voulais vous rappeler quand même le numéro de la ligne tenue par le CFCV, donc le collectif féministe contre le viol. C'est au 0800 05 95 95 0800 05 95 95, un numéro à afficher partout autour de vous.
Alors on va parler un peu plus d'environnement maintenant. J'aimerais vous parler, alors vous savez pourquoi je vous parle de ça. Vous savez qu'au niveau régional, l'environnement, c'est plus très à la mode du côté de M. Wauquiez, qui préfère donc les chasseurs aux écolos. Et la FRAPNA a décidé de réagir avec une campagne de crowdfunding face à cette situation. Alors, c'est une campagne que moi, je trouve assez drôle, qui s'appelle Adopte un bobo, c'est un hashtag. Alors par exemple, vous pouvez soutenir Victor, animateur nature et environnement. Alors pourquoi ce hashtag Adopte un bobo? Vous allez me dire, ils vont péter un câble à la FRAPNA. Ben non, ils réagissent tout simplement aux propos de monsieur Philippe Meunier, vice-président à la région, délégué à la sécurité, aux partenariats internationaux, à la chasse et à la pêche. Oui, à tout ça, tout mélangé. Il avait expliqué, il avait plutôt justifié, excusez-moi, l'attribution de la subvention de 3 millions d'euros aux chasseurs, en expliquant: il y a deux façons de voir la ruralité, la préservation de la biodiversité, l'aménagement du territoire. Soit on le voit du côté des bobos des villes, soit on discute avec les acteurs du monde rural qui connaissent le territoire parce qu'ils le pratiquent tous les jours et tous les week-ends lorsqu'ils chassent.
Les bobos des champs, quoi.
Voilà. Donc du coup, FRAPNA, ils ont repris le truc à l'inverse en disant, bah, adopte un bobo, hein, puisque chez nous, il y en a plein. Hein, dans l'association, et alors il y en a tellement plein qu'ils vont devoir se séparer de 18 employés. Ah bah oui, ils perdent 50% de leur subvention, donc forcément, oui, ça touche aussi l'entreprise et les salariés. C'est une réaction qui est à la fois brutale et rigolote, très sarcastique globalement. Oui. Tout à l'heure, il y avait plus de 3000 euros qui étaient déjà arrivés sur cette plateforme. C'est plutôt une bonne nouvelle, et la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, il n'y a pas que la FRAPNA qui est concernée, c'est beaucoup, beaucoup d'associations régionales qui parlent d'environnement, qui vont dans les écoles, qui font de la médiation, qui sont aussi parfois engagés, il faut le dire, qui se voient couper net ou progressivement leurs subventions. Tout ça pour que les chasseurs puissent préserver notre environnement quand même, qu'on se le dise.
Dans la culture aussi, enfin, il y a plein de...
Ah non, mais tous les secteurs avec M. Wauquiez sont concernés.
Sauf les syndicats de droite et d'extrême droite.
Ah mais la police va aller bien, si jamais il en avait les pouvoirs, voilà. Je crois qu'ils donneraient à l'armée,
ouais,
tu vois.
L'UNI aussi, tu sais.
Oui, mais bien sûr.
Petit peu de fric.
On en avait parlé effectivement ici. Je vais poursuivre avec ce qui se passe au niveau de Roland-Garros. Alors, le 6 octobre 1888, naissait l'aviateur français Roland-Garros.
Souvenez-vous.
Souvenez-vous. C'était un 6 octobre et Roland-Garros a donc donné son nom à ce machin qui sert de compétition pour le tennis. Et mardi matin, les démolitions et arrachages d'arbres ont recommencé dans le but de construire un nouveau court de 5000 places pour Roland-Garros. Alors lundi, saisi par la Fédération française de tennis, le Conseil d'État a cassé le jugement en référé du tribunal administratif qui avait le 24 mars dernier suspendu le permis de construire accordé par la mairie de Paris pour l'extension du stade vers les serres d'Auteuil, parce que c'est un peu là qu'il y a un petit problème, comme il faut le dire. Les travaux avaient donc été suspendus. Ils ont repris, vous voyez, là, lundi, on dit, ah, on lève la suspension. Mardi, ça attaque, les travaux. C'est-à-dire que c'est typique des projets dont on ne veut pas. C'est-à-dire que dès que les promoteurs peuvent entamer les travaux, ils le font. Comme ça, ça paraît impossible de revenir en arrière. C'est ce qu'on voit un petit peu de partout. Et là, c'est exactement cette méthode. Il faut savoir que le tribunal administratif doit statuer encore sur le front. En fait, il y a deux décisions de justice qui sont attendues pour la fin de 2016. Le tribunal administratif doit se prononcer sur les permis de construire. Donc là, c'est un point pour les associations qui se battent contre ce projet d'agrandissement sur les serres d'Auteuil, autour des serres d'Auteuil plus précisément. Un point important. Et puis, il y a un deuxième point important, c'est ce qui va se passer au TGI de Paris avec un recours des descendants de Jean-Camille Formiger, le concepteur des serres d'Auteuil. La famille s'oppose à la transformation des œuvres et attaque le projet au nom des droits d'auteur. Donc ça peut encore changer la donne, ou pas. Soyons très clairs, ou pas, la Fédération Française de Tennis est quand même extrêmement forte et puissante en France. Et il faut se souvenir que la mairie de Paris soutient ce projet, mais Madame la Ministre de l'Environnement aussi. Donc en fait, la Fédération Française de Tennis se croit quand même un peu toute puissante, et elle a bien raison. Et puis le Conseil d'État finalement affirme ce que les autres autorités avaient déjà dit, hein, la mairie de Paris et le ministère de l'Environnement, en expliquant qu'il n'y a pas de problème en fait. Qu'il n'y aura pas d'atteinte au patrimoine, que tout va bien, puisqu'en fait, il paraît que ça va même embellir. C'est ce que, la FFT explique, c'est que son projet va embellir le jardin d'Auteuil.
Comme le grand stade à mes yeux.
Voilà, c'est sur une toute petite partie en plus. Donc en fait, il faut voir la situation dans son ensemble et pas juste là où on fait le nouveau cours, vous voyez. Et puis Madame Hidalgo, maire de Paris, s'est félicitée elle aussi de la reprise des travaux. Alors elle a autre chose en tête, les JO, de 2024 et la candidature parisienne. Et pour elle, Roland-Garros, c'est évidemment un endroit extrêmement important. Alors elle veut enlever les bagnoles d'un côté, mais en même temps, elle est prête à saccager le jardin d'Auteuil et son patrimoine. Alors il y a des gens qui, à l'inverse, comme Lise Bloch-Morange pour le comité de soutien des serres d'Auteuil, estiment que c'est un mauvais point justement pour la candidature de Paris 2024. Je suis un peu d'accord aussi, parce que finalement ça peut aussi participer, on est contre, hein, d'accord, cette candidature parisienne, c'est clair, mais le patrimoine peut participer aussi à ce qu'un pays, une ville soit choisie, et voilà, et ça participe
du
aussi au tourisme.
Du CIO.
Voilà, donc tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est deux points de vue, hein, sur le monde en fait, simplement. Et puis il faut savoir aussi que l'ICOMOS, c'est le Conseil de l'UNESCO, est contre cette transformation. Donc Madame Hidalgo, comme la FFT, comme le Conseil d'État, ont envie de nous faire croire qu'en fait tout le monde est d'accord pour dire que c'est un super projet. Ben non, même au niveau international, il y a des gens qui sont contre ce projet de destruction d'une partie du jardin d'Auteuil, de modification de ce jardin d'Auteuil, tout ça pour du sport business. Il faut quand même le rappeler, on n'est pas pour créer un bel hôpital ou une école pour les enfants. Non, 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 hein, parce qu'on manque de place. Il s'agit bien de développer le spectacle sportif et le business qui va avec. Je crois que nous allons arriver à la fin de ce Canu Info.
Car après nous, il y a Papillon.
Exactement. Eh ben, merci bien d'être venu. C'était ma foi.
Merci bien pour l'invitation.
Agréable.
On aura fait notre maximum.
On renverra Laurent faire autre chose. On lui payera des billets d'avion, des billets de train. On lui louera un 4x4, ils sont contents. Pour que vous puissiez revenir me voir et m'accompagner une prochaine fois. En tout cas, moi, je retrouverai Laurent à cette place dans ce studio jeudi prochain. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter les émissions sur les blogs des émissions de Radio Canu. Et sur donc le blog du Canu Info du jeudi, tout ça se réécoute. Alors pas ce soir, non, parce que bon, je
fais
autre chose. Mais demain.
Demain soir, mais.
Non, demain dans la matinée. Je suis quand même un petit peu sérieuse, vois-tu, quand même, avec cette radio. On vous rappelle aussi que vous pouvez donc aller écouter dimanche soir La Causerie, hein, pour vous retrouver avec plaisir. Et donc, on espère que Papillon va pouvoir bientôt se lancer. Est-ce que c'est tout bon pour Papillon?
Eh bien, c'est parti.
Bonne soirée, au revoir.
Salut.
Ciao.